Bonjour à toutes et à tous, spécial Mandela Femme édition 2017. Bienvenue dans cette émission spéciale co-organisée par l'association de femmes de médias Mama Radio et Internews dans le cadre du programme de développement du secteur médiatique PDCM en sigle. Ce mercredi, en marge de la journée internationale des droits de la femme, un café de presse a été organisé dans ce sens. Vous le savez, la journée internationale des droits de la femme est organisée sous le thème international « La femme dans un monde de travail en évolution ». Une planète 50-50 d'ici 2030. Quelle analyse faire du travail de la femme en vue d'un essor économique de la province du Sud Kivu? Nous en parlons dans cette émission spéciale avec les invités, notamment Solange Loachiga, porte-parole du mouvement Rien sans les femmes, qui va parler des défis et plaidoyer pour un travail décent des femmes. Nous serons également avec Pascal Katagondois, un représentant de Madame le ministre provincial du Travail, et il va parler de la politique du gouvernement pour la promotion du travail des femmes au Sud Kivu. Patient Bachombe, rapporteur du bureau de coordination de la société civile, représente cette structure citoyenne. Il va exposer sur les stratégies de la société civile dans l'accompagnement des femmes pour accéder à l'emploi. La Fédération des entreprises du Congo est également représentée et elle va exposer sur les actions menées pour défendre et promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Ce café de presse est entrecoupé par des reportages Vox Pop et des interviews organisées par Mama Radio et Radio Universitaire ISDER, deux radios partenaires du programme PDSM. Tout le débat dirigé par la chargée des programmes à AFM, Douce Namwezi. Moi, je m'appelle Élisée Mouzalia, je suis assistant au programme Information et Production à AFM et Mama Radio. Merci à toutes les radios partenaires qui diffusent cette émission. Bonne condition d'écoute à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce presse-café. Merci infiniment d'avoir répondu présent à notre invitation, quoique à la dernière minute. Internews a voulu collaborer avec l'association des femmes de médias pour cette fin. Et c'est pour ça que vous avez reçu cette invitation, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur les défis qui demeurent par rapport à l'accès au travail pour les femmes, étant donné que le thème retenu même pour cette année, fait allusion à un travail de femmes dans un monde en évolution. Et il est important pour nous, au Sud Kivu, de réfléchir également sur que faire pour que l'environnement de travail de femmes soit beaucoup plus propice. Et ensemble avec Charles des Internews, nous avons préparé cette activité. Et je vais appeler Charles pour nous brosser très brièvement l'objectif de notre activité de cet avant-midi et surtout les différents résultats que nous attendons de cette activité. Charles, bienvenue.
Mesdames et messieurs, les professionnels des médias, les acteurs de la société civile, bienvenue au centre des ressources pour les médias de Internews ici à Bukavu. Les objectifs de ce café de presse, amener la société civile, les organisations des femmes et des médias à réfléchir sur des actions qui peuvent activement contribuer à mobiliser les soutiens nécessaires et à promouvoir les initiatives nationales, pourquoi pas internationales, en matière d'accès de la femme à l'emploi. Comme Douce vous l'a dit tout à l'heure, là on va suivre une interview d'une maman qui nous explique comment elle est arrivée à se faire du travail, mais on ne reste pas à ce niveau. Il faut que les médias, les acteurs de la société civile accompagnent ce genre d'initiatives pour encourager celles qui pensent qu'on ne peut pas y arriver à faire quelque chose. Mais il faut que les médias le disent. Et ceci peut inciter les autres à l'accompagner. Voilà pourquoi nous sommes là.
Merci beaucoup, Charles. Et pour poursuivre, nous allons donc suivre cette interview réalisée par notre confrère Patrick Karondoa de la radio ISDER, de la radio universitaire. C'est une interview de Madame Aimé Luemba. Elle est diplômée en technique de développement de l'Université catholique du Congo à Kinshasa. Après un temps de travail dans une ONG internationale, elle a décidé de créer de l'emploi qui fait vivre non seulement sa famille, mais également d'autres familles. Et dans cette interview avec Patrick Kaondoa de la radio ISDER, elle parle de son expérience. Nous vous invitons à la suivre.
J'ai eu la chance de travailler dans des organisations internationales. J'ai commencé à Kinshasa Et juste quand je suis mariée, je devais suivre mon mari ici à Bukavu. Je suis venue ici à Bukavu. J'ai eu un emploi à l'ACTED où j'ai assumé les fonctions d'assistante de ressources humaines. Vu la fin du financement de mon contrat, j'étais obligée de me jeter dans le secteur informel pour subvenir à mes besoins. J'ai une belle sœur qui est à Kinshasa. Elle a commencé à m'acheter des bijoux fantaisie de Kinshasa que je vendais ici à Bukavu. Je vendais deux fois de porte en porte, mais j'avais fini même de mettre une table vers ISP où je vendais mes bijoux.
Et avec combien d'argent vous avez commencé cette activité?
Je commençais avec 300 dollars, mais après, en tout cas, j'avais une affaire de 1000 dollars en main.
Quelles étaient vos stratégies pour parvenir à émerger dans vos activités?
Je me suis dit, ici, il y a des bijoux venant de Kampala, de Burundi. Je me suis dit, je peux commencer à acheter des bijoux de chez moi, à Kinshasa. Au fait, ce sont des bijoux de bonne qualité. D'autant plus que j'étais près de l'institution ISP, je me suis dit, comme j'ai fait l'étude du marché, j'ai des étudiants à côté de moi, je pouvais faire quelque chose pour subvenir à mes besoins. Et en fin de compte, j'avais réussi.
Qui vous a appris cette activité?
Dès le départ, j'ai fait les humanités commerciales administratives. Avant d'entrer aux facultés catholiques, j'avais commencé l'économie à l'UNIKIN avant de descendre à l'ICC. Donc, dès le départ déjà, j'avais déjà des atouts de l'aspect commercial.
Qu'est-ce que le commerce de ces bijoux vous a apporté?
Le commerce de bijoux m'a apporté beaucoup de choses. Je n'attendais pas mon mari pour faire des dépenses journalières. Je me suis pris en charge, même dans ma famille.
On vous a aussi trouvé dans un salon de coiffure. Avez-vous un talent dans ce sens-là?
Pendant mes temps libres, je passe mon temps ici dans les salons en train de tresser. Toujours dans le cadre de subvenir à mes besoins et de promouvoir l'activité de la femme. Quand nous tressons là, nous avons quelque chose, ça nous permet de vivre.
Et quel message vous pouvez alors lancer à l'endroit des autres femmes qui attendent seulement avoir un travail au bureau?
Non, moi je veux leur conseiller de ne pas baisser les bras. L'emploi, oui, bien que nous avions étudié, mais il faut chercher. Parce que l'emploi, ce n'est pas chaque jour, ce n'est pas chaque fois. À toutes les femmes, de ne pas baisser les bras, de faire quelque chose. On peut beau crier que le pays ne va pas bien, le pays va mal du point de vue financier, politique, mais il faut qu'on ait un sens de créativité.
Fin de ce portrait, j'ai reçu Mme Aimée Louemba. Elle est diplômée en technique de développement de l'Université catholique au Congo, mais le manque du travail l'a poussée vers la coiffure et la vente des bijoux.
Merci beaucoup Patrick. C'était juste pour nous mettre dans le bain de notre activité d'aujourd'hui. Et sans tarder, je vais passer la parole à Isaac Bachombé pour nous parler du rôle de médias tel que notre confrère vient de jouer son rôle effectivement en mettant en lumière ces femmes vaillantes. Quel est le rôle que les médias doivent jouer dans l'accompagnement des femmes pour accéder à l'emploi?
Bonjour chers invités, c'est 8 mars de l'an 2017. Nous ne saurons pas commencer notre brève allocution qui porte sur les rôles des médias dans l'accompagnement des femmes pour accéder à l'emploi sans que le Rateco Sud Kivu, institution que nous représentons présentement, ne souhaite une bonne et heureuse fête de la Journée internationale de la femme à toutes les femmes en général et en particulièrement à celles qui sont présentes dans cette salle. Créé depuis 2003, le Rateco est une organisation sans but lucratif qui vise à mettre en place un cadre permanent de concertation, de solidarité, d'échange, de plaidoyer et d'appui multiforme entre les directeurs de radio et télévision communautaire de l'Est de la RDC. Aujourd'hui, l'organisation totalise 14 ans d'existence. Comment est-ce que le média du Sud Kivu doit-il parvenir à accompagner la femme pour qu'elle ait accès à l'emploi? Voilà ce qui est au centre de notre réflexion. L'égalité entre les femmes et les hommes signifie une même visibilité, autonomie, responsabilité et participation des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie publique, y compris l'accès à l'emploi.
Merci beaucoup pour cet exposé si brillant et bref qui nous rappelle à nous tous en tant que professionnels de médias notre rôle influent et surtout qui nous appelle à signer ce pacte médiatique pour l'égalité des sexes. Sans tarder, je vais appeler Madame Solange Loachiga, pour nous parler tout d'abord brièvement de ce mouvement « Rien sans les femmes » que la plupart d'entre nous ici présents connaissent déjà, mais qui serait peut-être une première pour d'autres personnes, et de nous parler surtout de différents défis qui demeurent quant à l'accès des femmes à l'emploi. Madame Solange, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Douce. Bonne fête à toutes les femmes et tous les hommes genrés. Merci à Internews de nous avoir accordé cet espace. Le mouvement Rien sans les femmes, c'est un regroupement des organisations de la société civile qui travaillent pour promouvoir les droits humains et particulièrement les droits des femmes et qui a vu le jour en mars 2015. Les organisations de la société civile sont parties du constat que, malgré les travaux que fournissent beaucoup d'organisations et acteurs par rapport aux droits des femmes, il y a des questions qui restent irrésolues, et notamment la question des représentations égalitaires des hommes et des femmes dans les instances de prise de décision. Quand on parle de la représentation égalitaire, là vient la notion de l'emploi. L'accès à l'emploi et cet emploi, cet accès à l'emploi qui est même le thème choisi pour le 8 mars 2017. Initialement composé de 15 organisations et quelques individus personnes, actuellement le mouvement Rien sans les femmes est composé de plus de 160 organisations basées au Nord Kivu, Sud Kivu, ville de Kinshasa, Maniema, et quelques organisations au niveau du Kasaï. Sans plus tarder, la question de l'emploi, comme nous l'avons dit, les femmes sont plus particulièrement concernées au vu du contexte actuel que nous traversons. Nous qui avons par exemple une quarantaine d'années, si nous essayons de questionner le passé, je dirais que je n'ai jamais assisté ou vu une politique d'emploi en RDC, à moins que l'audience me dise le contraire.
Merci beaucoup, Solange. Merci beaucoup, Solange, pour cette synthèse du travail du mouvement Rien sans les femmes par rapport à sa lutte pour la participation politique des femmes en priorité, mais également cette analyse sur les défis qui guettent l'accès au travail pour les femmes. Avant de donner la parole aux représentants du ministère du Travail, nous allons suivre de nouveau un petit reportage réalisé toujours par nos confrères de la radio universitaire ISDER par rapport à la problématique d'accès des femmes à l'emploi.
Elles sont nombreuses, les femmes cadres universitaires qui se retrouvent dans les secteurs informels après 5 années d'études. Pour ces femmes, le manque du travail est la cause de leur virement vers l'informel. L'objectif recherché est découvrir tant soit peu les charges familiales. Karine Nehema, l'une de ces femmes que nous avons contactées, est licenciée en informatique de gestion de l'Université catholique de Bukavu. Le commerce des chaussures, des habits et des bijoux est son activité principale. Elle exerce cette activité depuis qu'elle est étudiante. Actuellement mariée, elle couvre les charges de sa famille grâce aux gains qu'elle en tire.
Oui, je dirais que c'est beaucoup. Ça m'a arrangé à un moment donné, pendant que j'étais jeune d'abord. Ça m'aidait à ce que je puisse subvenir à mes besoins personnels, acheter les syllabus. Pas les frais académiques, mais les syllabus, acheter de lait de beauté, aussi subvenir à mes besoins pour ne pas aller chercher ailleurs ou ne pas voler. Et ça m'a arrangé. Et pour ma famille, aujourd'hui, je suis une maman. Aujourd'hui, ça m'aide dans mon foyer. Je n'attends pas avoir de l'argent, mais ça me permet des fois d'acheter de quoi vivre dans la maison et autre chose.
Pour notre source, trouver un travail reste son objectif en dehors de ce qu'elle fait. Depuis le début de ses activités jusqu'à aujourd'hui, Karine Nehema fait savoir que les choses ont beaucoup changé.
Avec les perturbations économico-politiques de notre pays, ça perturbe. Comme nous voyons aujourd'hui, les taux d'échange a changé. Si vous vendez en francs, il n'y a pas moyen de vous retrouver. Les taux d'échange qui est un peu perturbé, tu vas voir, il y a d'autres qui sont à 1100, d'autres à 1200 et d'autres à 1300. Quand vous serez remboursé, ils ne vont pas vous rembourser dans les taux actuels, les taux qu'il faut, mais plutôt dans les taux auxquels ils pensent.
Notre source appelle toutes les femmes à se livrer aux activités informelles et ne pas attendre seulement avoir un travail du bureau.
Merci beaucoup Patrick pour ce bon reportage avec cette dame qui se débrouille tant bien que mal. Sans tarder, nous allons passer la parole au représentant du ministère du Travail pour nous parler des politiques du gouvernement pour la promotion du travail des femmes. N'en déplaise ce que Solange a fustigé.
Aujourd'hui, on nous a été conviés de participer à ces assises à l'occasion de ce 8 mars. Nous voudrions, date des Jeux, présenter bonne fête de 8 mars à toutes nos mamans. Et ainsi, Madame la Ministre m'a chargé. Oui, parce qu'il n'y a rien sans la femme, parce qu'ici aussi, il y a des hommes qui accompagnent nos mamans. Mais j'ai bel et bien suivi l'intervention de nos intervenants tout à l'heure. Je pense qu'ils ont fustigé des situations que nous connaissons dans ce pays. Mais en ce qui nous concerne, on nous a sollicité d'intervenir sur la politique du gouvernement pour la promotion du travail des femmes au Sud Kivu. D'entrée des jeux, j'ai suivi les Vox Pop. J'ai compris qu'au fait, il y a des initiatives qui sont prises dans le cadre d'initiatives managériales des mamans, des femmes, des non-sœurs, que nous devons encourager, mais aussi ce que Solange a fustigé, notamment ce qui concerne la faible volonté politique pour accéder aux femmes par rapport aux opportunités du travail. Cette question, je pense que ça suscite un débat parce qu'au fait, c'est une réalité. Mais en ce qui concerne la politique du gouvernement, vous allez comprendre que notre gouvernement place la lutte contre le chômage et les sans-emploi, les sous-emplois au centre de ses préoccupations majeures en vue de la réduction de la pauvreté. Le secteur de l'emploi reste confronté à plusieurs défis qui méritent d'être relevés. Notamment, nous avons la réduction du taux de chômage et du sous-emploi, la résolution ou à la problématique de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Notre gouvernement aussi milite pour la réduction et le déséquilibre entre la demande et l'offre d'emploi, mais aussi milite pour l'accroissement des taux d'emploi dans les secteurs formels, mais aussi on s'investit dans le renforcement des capacités des structures en charge de la promotion de l'emploi. Bien sûr, il y a aussi d'autres questions, notamment liées à l'amélioration de la gouvernance du marché du travail, mais aussi du secteur privé pour qu'il puisse devenir le moteur de croissance économique et un puissant levier de création de l'emploi décent et productif. Le gouvernement a pour ambition de réaliser le plein emploi à l'horizon 2035. À cet effet, la politique de l'emploi se fixe comme objectif de garantir un travail décent à tous les Congolais, y compris la possibilité aux femmes de trouver un emploi productif et librement choisi pour garantir les droits au travail et assurer le plein emploi. Ainsi, la politique du gouvernement repose sur sept axes stratégiques comportant chacun des programmes et des actions prioritaires pour leur mise en œuvre. Et le premier axe stratégique consiste à placer l'emploi au centre des préoccupations macroéconomiques et sectorielles. Et le deuxième axe consiste à accroître l'offre de l'emploi décent ainsi pour développer les secteurs privés. Le troisième axe s'appesantit sur une bonne amélioration de l'employabilité des populations cibles et développer la formation professionnelle. Et le quatrième axe, il s'agit d'organiser le système d'information et améliorer la gouvernance du marché du travail. Le cinquième axe s'appesantit sur la promotion de l'emploi des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables. Ainsi, le sixième, c'est pour renforcer la capacité institutionnelle des structures chargées de la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle. Enfin, le septième, c'est pour promouvoir l'entreprise du type moderne par la formalisation de l'économie informelle et sa modernisation.
Nous allons sans plus tarder donner la parole à Passion Bachombe, parler également de stratégie de la société civile pour la même thématique.
Merci beaucoup pour nous avoir invités à ces assises. En tout cas, je serai bref. Cependant, je voudrais dire qu'aujourd'hui, l'heure ne devrait pas être au discours, surtout que nous sommes en train de réfléchir sur une thématique bien précise par rapport à l'accès des femmes au travail. En effet, le monde du travail est en train de changer, ce qui entraîne des implications importantes pour les femmes. D'une part, la mondialisation et la révolution technologique apportent de nouvelles opportunités. D'autre part, la croissance du travail informel ainsi que les salaires et les revenus instables ou encore des nouvelles politiques fiscales et commerciales ont aussi des effets sur l'automisation de l'économie des femmes. Je voudrais nous inviter tous, pour ceux qui ont leur constitution, de lire l'article 36 de notre constitution qui est assez éloquent. Et voilà comment elle essaye, ou cet article, notre constitution essaye d'aborder la question du travail. Je le lis in extenso, l'article 36 dispose... Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État garantit les droits au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante, assurant au travailleur ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment la pension, de la retraite, de la rente viagère. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques. Tout Congolais a les droits et les devoirs de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité nationale. La loi établit les statuts des travailleurs et réglemente les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et l'exercice des professions exigeant une qualification scolaire ou académique. On ne fait plus de cadeaux. Nous sommes dans une génération où on ne fait pas de cadeaux. Première chose, étudiez. Devenez des médecins. Devenez des policiers. Policières, voulais-je dire. Devenez étudiez. N'abandonnez pas les formations.
Merci beaucoup, Passion Bachombe, pour cet exposé par rapport au travail de plaidoyer, de sensibilisation, de formation que fait la société civile. Et pour finir avec notre série d'exposés, nous allons inviter la représentante de la Fédération des entreprises du Congo pour nous parler également des actions menées pour promouvoir et pour défendre l'entrepreneuriat féminin. Madame, vous avez la parole.
Il nous a été demandé de vous entretenir sur les actions menées par la FEC pour défendre et promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Mais avant d'y arriver, nous voudrions vous informer que la FEC n'est pas seulement un syndicat patronal, une organisation professionnelle des employeurs, mais il est aussi une chambre de commerce, des mines, d'industrie, d'agriculture, d'artisanat. Et en tant que telle, elle a pour rôle de promouvoir les activités de ses membres. À cette fin, la FEC organise des rencontres de ses membres par domaine d'activité en vue d'un échange d'expériences et de recherches communes des solutions aux problèmes qui se posent dans leur secteur. Le montage complet des dossiers de demande de crédit et les suivis auprès des bailleurs de fonds, la recherche de financement auprès des banques et autres institutions financières, tant nationales qu'internationales, en faveur de ses membres, l'assistance à la création et à l'installation de l'entreprise, des offres d'affaires, des manifestations foraines nationales, pour ne citer que cela. Messieurs et dames, pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, au niveau de la FEC, deux grandes actions sont menées. Il y a la formation la recherche de financement. Dans le cadre de la formation, la FEC, à travers sa commission Femmes Entrepreneurs, organise des formations en faveur de cadres féminins des entreprises, de femmes chefs d'entreprise et de toutes les femmes commerçantes, quels que soient les secteurs d'activité. Les thèmes sont choisis selon le besoin qui se présente au pays. Par exemple, le besoin d'appliquer la comptabilité OADA dans les entreprises en lieu et place du plan comptable général congolais ou selon la demande de membres. Dans l'effort de soutenir le femme chef d'entreprise, commerçante et autres, Access a intégré une initiative spécifique destinée à améliorer les compétences de femmes entrepreneurs à l'exportation. Et en juin 2017, 8 projets de femmes entrepreneurs seront financés. Et à cette occasion, je fais appel à toutes les femmes commerçantes qui sont présentes en ce lieu et qui ont leur projet à toujours le déposer au niveau de la FEC pour saisir.
Et avant de continuer, nous allons suivre quelques éléments qui ont été préparés par AFEM, par Mama Radio et par la radio universitaire ISDER. On a également interrogé, pas seulement les experts panélistes, mais également le commun des habitants de Bukavu, du Sud Kivu, par rapport à ce qu'ils pensent quant à l'emploi des femmes. Nous allons vous inviter à suivre ce Vox Pop réalisé par la radio ISDER.
Kuko mipango ya ele masomo ya ufundi nye ilianza. Kuko ele tunaita minister ya inangalia tu masomo ya ufundi. Nafikiri pale sasa njua wale badada wenye awezu kufatafata ele masomo ya mrefu banaweza kuingia na pengi kati yao batakupata gisi ya kujitafutia maisha kwa sababu kazi zitakuwa pale pale wanajifanyia wenyewe.
Napenda kwa mwanamke wawe na nafasi katika gouvernance yetu demokratiki. Na juu ya kupiganisha hiyo wanaita vulnerability de la femme. Wanaweza kufanya action tunaita action génératrice de revenus. Hii ambayo inaweza kuwasaidia kupata pato ndogo ndogo au mingi itatokana na capacity ya kila mmoja. Na wanawafundisha pia juu ya madroit zao, droit za mwanaume na za mwanamke zaidi hata hizi za kurinzi katika majamaa zetu katika nchi yetu. Na hii wanamna gani wanaweza kuwa proprietaire wa vitu wanafundishiwa hiyo.
Gouvernement iwasaidie ili wakuwe napatia nao wanawake fasi ya yanaweza kamata decision. Fasi za mingi sana, kazi za mingi sana wanazipatia wanawake, ndio wanayua kama mwanamke anaweza tumika, lakini wanampatia kazi ya chini chini sana. Na kule ngambo ya kuvilaje mwanamke anaachiliwa sana. Kule kwende zilomba na kusi guvernema sana, yende kule ifanye sensibilisation kuwa babu.
Mwanamke apate kazi, anapasha kuwa na diplome ya cheti kinye, ineza kumuonesha kama ele kapable ya kujidefende msosete. Mwanamke anapasha kuonesha kama yeye deja, anapasha kujikamata on charge. Anapasha kuangalia namna gani, anaweza kukreye maorganizasyon mbalimbali.
Ineza kuanza patia mwanamke consideration. Parce que kiangalia mzuri mwanamke akuwe considéré mu société. Nasema kama batoshe ile makulture ya zamani ya kusema que mwanamke yeye kibito te anaweza kuwa nafanya anajifocaliser tu kwa mafiga, mwanamke ni batoto, mwanamke ni makazi ya chini, ni mwanamke azifanya vitu vyenye vinaweza kumuvoir. Parce que mwanamke anaweza saidia société iendelee mbele.
Vous venez là de suivre les avis des habitants du Sud Kivu. Pourquoi c'est important pour les femmes d'accéder à l'emploi? Et pour finir avec notre série d'éléments sonores prévus, nous allons vous inviter à suivre un sociologue que nous avions également interrogé par rapport toujours à la problématique de l'accès des femmes à l'emploi, mais surtout à la célébration même de la journée du 8 mars, contrairement aux années passées où on défilé, emporté de pagne, etc. Mais maintenant, la place semble plus à la réflexion. Pourquoi c'est important ce changement? Je vous invite à le suivre.
D'entrée des jeux, peut-être ça va vous étonner. Je dirais que les manifestations festives, les manifestations réflexives n'ont pas de contradictions. Et je vais argumenter cela en disant que la Journée mondiale de la femme, c'est une occasion de se remémorer ou de célébrer ces luttes menées par plusieurs femmes depuis plusieurs années dans ce qu'on a appelé les mouvements féministes, qui ont suffisamment démontré que la femme a été discriminée. Et que donc, il est possible, à mon avis, de par cette symbolique, de fêter, mais aussi de réfléchir. Mais aussi, les jours où elle fête, elle fait preuve, où elle essaie d'exprimer encore à la face du monde, de la communauté, qu'elle existe. Et donc, il n'y a vraiment pas de contradiction possible. Ces femmes qui viennent demander, bien entendu, il faut se rassurer du soubassement ou de la motivation profonde de leur demande par rapport au fait. Mais je crois que si cela est inscrit sur le plan de la manifestation de son existence, il n'y a pas de problème. Je voudrais vous rappeler ici que de toutes les façons, la manière dont la Journée mondiale de la femme peut être célébrée devrait s'inscrire aussi dans les cultures des peuples. Ce n'est pas quelque chose de si tranché. Comment nous célébrons un événement, une commémoration dans notre société? C'est à cela qu'il fallait s'inscrire, sous peine de frustrer les habitudes des gens. Et donc, de vider le sens même à la Journée mondiale de la femme, parce que les gens risqueraient de ne pas se retrouver culturellement.
Mais le fait est que, Doudou, sans vouloir vous interrompre, et que certains hommes réduisaient cette journée à une journée de pagne, dans le sens que, encore une fois, ma femme va me demander un pagne. Il y a certaines femmes également qui pensaient que c'était la seule occasion, parmi les rares occasions, d'avoir un pagne neuf, et donc pas question de réfléchir sur mon avenir, pas question de réfléchir sur mes potentialités, donc c'était... Ça réduisait un peu plus, et la première année que le ministère du genre a interdit la célébration de la journée par des défilés, de pagnes, etc., ça a fait couler vraiment beaucoup d'encre et de salive. Ça crée quand même une sorte de contradiction.
Pourquoi ça crée un tollé ou des contradictions ou des frustrations? C'est parce qu'on ne rentre pas dans les cultures des gens. On ne devrait pas franchement se mettre à considérer que une commémoration festive a nécessairement une dimension négative ou n'a pas cette dimension de véhicule, si vous voulez, cette fonction de véhiculer l'idéologie qu'on voudrait faire passer. Je vais vous faire remarquer qu'en fait, ce n'est pas au ministre, parce que quand vous dites, bon, on a arrêté de fêter, etc., mais qu'est-ce que cela traduit aux yeux de ceux-là qui doivent?
C'est là la question.
C'est ça, justement. Et quand vous avez relevé le fait que la société n'est pas... Nous ne sommes pas tous concentrés à Bukavu. Par quelle pédagogie on peut véhiculer le message? Encore qu'il faut se dire à la fin que la Journée mondiale de la femme n'est pas une autosatisfaction. C'est plutôt continuer à marquer cette revendication que la femme a toujours portée en ce qui concerne sa discrimination ou des inégalités qu'elle subit dans la société.
C'est par cette interview que je vais vous donner également la parole, chers confrères, consoeurs, journalistes, chères femmes activistes, chers invités. Vous avez des contributions, vous avez également des questions, vous êtes les bienvenus à les exprimer. Qui commence? Oui, madame.
Je voulais savoir qu'est-ce qui manque au gouvernement pour qu'il y ait création de l'emploi, pour qu'il y ait des équilibres à ces niveaux. La deuxième question, on nous a dit que le gouvernement a un objectif de plein emploi en 2035. Vous, comme gouvernement, comment vous pensez prendre en charge tous ces jeunes qui seront en train de finir leurs études avec tous ces diplômes jusqu'en 2035? La question pour la FEC, vous nous avez parlé des 2 millions de dollars américains provenus, vous avez parlé des BAD. Alors je voulais savoir combien d'activités vous avez financées avec les 2 millions de dollars américains en 2015.
Je suis Frank Ringue, le journal s'est reporté à la Vision Chala. Quelles sont les actions qui peuvent être menées par la FEC pour défendre et promouvoir l'entrepreneuriat féminin?
Merci pour la parole, bonjour à tout le monde. Je suis Alice Kadabika de Mamari, de l'Association de femmes des médias. Ma question elle est adressée à Mme Solange par rapport au défi sur l'égalité entre d'égalité entre les hommes et les femmes du point de vue professionnel. Quels sont les mécanismes que les mouvements Rien sans les femmes ou encore l'association des femmes des médias peuvent mettre en œuvre pour qu'il y ait égalité entre les hommes et les femmes, surtout du point de vue professionnel? Merci.
Merci. Une dernière question de la série.
Je suis Mapendo Dossiri de la radio Nola Uzima. Ma question aussi s'adresse à Mme Solange Bachiga. Je voulais savoir, parmi toutes les revendications formulées par les femmes à travers les journées mondiales, est-ce qu'il y a celles qui ont déjà trouvé satisfaction?
Moi, c'est Mademoiselle Rachel Bouroumé Bichipwabo.
Merci, Rachel. Vous pouvez rester avec la parole et répondre aux questions vous adressées.
Oui, je l'ai bien dit dans mon exposé, que les actions menées par la FEC pour défendre et promouvoir l'entrepreneuriat féminin, c'est la formation et le financement des projets de femmes. Dans le cadre de la formation, la FEC ces derniers temps a basé plus son action sur la formation parce qu'il faut que la femme soit formée. Si la femme n'est pas formée, elle sera déformée. Parce que même si vous donnez des millions à une femme, mais si elle n'est pas formée, elle ne va pas utiliser cet argent comme il le faut. Et après un certain moment, elle n'aura rien. C'est pour cela que la FEC forme les femmes. Elle a compris qu'avec la formation, les femmes peuvent arriver à l'autonomisation. Il y a par exemple le plan d'affaires, comme je l'ai dit. Vous pouvez donner l'argent à une femme, mais si elle se réveille, elle entre dans une affaire, seulement parce qu'elle a vu le voisin, la voisine commencer telle entreprise, aller à Dubaï, en Chine, elle aussi, elle part là-bas sans faire le plan d'affaires. Demain, elle n'aura rien. Mais si elle est formée, elle sait comment elle va utiliser cet argent, elle sait comment elle va gérer son entreprise, la femme va arriver à un niveau de l'autonomisation. C'est pour cela que la FEC base plus son action sur la formation. Nous avons aussi parlé de financement des projets des femmes. Pourquoi uniquement pour les femmes? Parce que le problème des femmes n'est pas comme ceux des hommes. Les femmes ont des problèmes particuliers. Par exemple, elles n'ont pas accès au crédit. La femme n'a pas la maison, n'a pas le certificat, n'a pas le gage, n'a pas l'hypothèque. Elle n'a pas accès à ses crédits. Et des fois, même quand elle a accès au crédit, c'est à une garantie qu'elle n'a pas. Ou bien à des taux là exorbitants. C'est pour cela qu'il y a des crédits qui sont, et des financements qui sont spécifiques aux femmes. Par exemple, il y a même des subventions uniquement aux femmes parce que les femmes n'ont pas le même problème, n'ont pas le même souplesse que les hommes. C'est pour cela que la FEC aussi a mis l'accent sur ces points-là. Pour ce qui est de ce financement de 2 millions de dollars de la BAD, j'ai bien dit que ce n'est pas seulement pour la FEC Sud Kivu. Ou bien ce n'est pas uniquement pour les femmes de la FEC Sud Kivu. Non, pas uniquement pour les femmes membres de la FEC, c'est pour toutes les femmes chefs d'entreprise, c'est pour toutes les femmes commerçantes qui ont déposé leur projet et c'est réparti par province.
Ici, je pense que si vous m'aviez très bien suivi dans mon exposé, j'ai parlé des différentes réformes initiées, mais ici, je vais juste m'appesantir sur la réforme de la fonction publique. Et on a mis sur pied, toujours dans le cadre de cette réforme, l'école d'administration, l'école nationale d'administration, où on a recruté au niveau de la fonction publique. C'est par là que je parle de ces déséquilibres-là par rapport à l'offre. Donc on a senti qu'il y avait faible intérêt que les femmes avaient porté lors du recrutement. Et nous avions toujours encouragé, parce qu'au fait, dans les critères, il était prévu qu'on recrutait des femmes ou ceux-là qui postulaient, qui pouvaient avoir l'âge qui variait entre 24 et 30 ans au maximum. Ça veut dire qu'ici, on était en train de promouvoir beaucoup plus des jeunes. Et là, on a senti, par rapport à l'offre, bien sûr, on a senti qu'il y avait beaucoup plus de garçons qui ont postulé que des femmes parce qu'ils n'ont pas porté beaucoup d'intérêt Parce que très souvent, les femmes pensent qu'en fonctionnant la force publique, il n'y a pas de salaire. Comme l'a si bien souligné mon ami Patient Bachombe, surtout avec les équilibres qu'on remarque en matière de rémunération de la fonction publique.
Merci Pascal pour vos compléments. Madame Solange, très rapidement.
Je voudrais d'abord soulever que les Congolais et Congolaises devraient réduire la charge qu'ils ou qu'elles se sont fait porter au lieu de la faire porter à l'État congolais. La question de la réduction des inégalités, ça c'est la gestion politique. Et là on voit les lois qui sont, comme je l'ai dit, pratiques et qui doivent être respectées. Et tant que nous, nous n'amenons pas l'État congolais à avoir des lois qui tiennent compte des inégalités sociales, économiques, politiques, en matière de les réduire, c'est tout un problème. Il y a la politique de genre. Mais depuis que cette politique de genre a été élaborée, où est-ce que nous en sommes? Il y a le plan d'action de mise en œuvre de la résolution 1325 depuis 2010. Nous sommes en 2017. Où est-ce que nous en sommes? Mobilisons-nous, chères mamans, chers hommes genrés, dans vos maisons. Dites tout aux femmes fait. Et aux hommes de se joindre au mouvement Rien sans les tout femmes.
Je suis Maître Nancy Maïcha. Je suis de l'association SOS IJM. Ma première question s'adresse au ministère, au ministère du Travail, M. Pascal. On a parlé des réformes, mais le seul exemple typique, c'était le réforme, l'ENA, que nous connaissons tous. Pourtant, il s'avère très important que toutes ces réformes entrent en marche. Mais on a parlé de 2037. Je ne sais pas si c'est en 2037 que commencent d'autres réformes ou ce sont déjà en cours, mais on n'est pas au courant. L'autre question s'adresse à l'AFEC. C'est justement par rapport à l'accès à l'information, à tout ce qui se passe dans l'AFEC, surtout en faveur de femmes. Est-ce que les femmes sont informées qu'elles ont des faveurs auprès de l'AFEC? Et si oui, comment elles y accèdent? Merci.
Je vous remercie de la parole. Johnson Setti de la Radio Star. Pascal a évoqué l'aspect de la discrimination liée à l'expérience de 3 ans, de 5 ans. Et parce que nous parlons de la problématique de l'accès à la femme à l'emploi, je me dis qu'il y a une autre forme de discrimination dont nous sommes victimes, cette fois-là nous les hommes. Et là, j'aimerais savoir si elle réconforte les femmes. C'est par exemple quand on dit les candidatures féminines sont encouragées. Est-ce que les femmes sont fières de cette discrimination qui semble être positive face à elles? Voilà.
Merci beaucoup pour la parole. Je suis Esther Kanga, je suis journaliste. J'avais deux questions, une pour M. Pascal, mais elle a déjà été posée par Madame de l'ICJP. Mais la question qui reste, c'est celle pour Madame Solange. Elle est du mouvement Rien sans les femmes. D'abord, je m'attaque d'abord au nom du mouvement Rien sans les femmes. Est-ce que ce n'est pas une façon de discriminer aussi les hommes? Ou dans le nom d'abord, il n'y a pas une sorte de un petit orgueil féminin? Vous ne le sentez pas vous-même? Mais aussi, la deuxième question que j'ai pour vous, vous êtes là depuis 2015 et après votre exposé, vous avez énuméré plusieurs plaidoyers que vous avez déjà entrepris. Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà constaté un changement? Et si oui, ce changement est à quel niveau et avec un fait concret ou des faits concrets? Merci.
Merci beaucoup, chers consoeurs. Même si j'avais dit que c'est la dernière intervention, une exception à une autre grande dame que vous connaissez qui va aussi donner sa contribution.
C'est Madame Nounou Saloufa de l'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Bon, si je prends les micros, c'est pour aussi montrer que, à part les initiatives commerciales, il y a aussi des femmes qui sont dans des petites micro-entreprises et il y a des modèles qu'on pouvait aussi s'inspirer, des cas d'initiation des femmes à l'accès donc au travail. Dans ces cas-là, il y a beaucoup de défis qu'il faut relever. Je m'adresse à Madame Rachel de la FEC parce qu'elle a parlé de toutes les initiatives que la FEC donc prend avec les femmes commerciales. Mais dans son discours, elle avait aussi souligné qu'il travaille avec les femmes qui sont dans les domaines artisanaux et autres. Mais dans l'accompagnement, je ne vois pas vraiment un accompagnement précis. Parce que nous, dans les domaines d'accompagnement des femmes dans les métiers, il y a des grands défis sur l'accompagnement post-formation. Dans cet accompagnement post-formation, il y a par exemple les kits de réinsertion que ces femmes-là manquent pour montrer vraiment de quoi elles sont capables. Je me dis, et je ne sais pas si dans les financements que vous avez reçus, on n'avait pas prévu, en tout cas, de financer ce genre d'activité. Et puis, à patient de la société civile, il a bien souligné le fait que les femmes, donc, qui, si elles se retrouvaient une fois dans des coopératives ou bien dans des groupes, elles peuvent bien travailler et qu'il y a la NAPI qui peuvent bien les accompagner. Moi, je me demande dans les cas précis, c'est quoi la stratégie que la société civile doit prendre pour que ces femmes-là ou des organisations qui sont dans la thématique entrepreneuriat puissent donc se retrouver ensemble pour essayer un peu de changer sur cette question-là. Merci.
Merci beaucoup, Madame Nounou. Nous passons la parole à nos différents panélistes, Madame Solange, pour commencer.
Je reviens sur ce que nous avons dit. Nous sommes en train de discuter des questions où on a en face les institutions publiques qui ont dans leur mandat de travailler, d'améliorer les conditions de vie des citoyens et citoyennes. Je voudrais encore attirer notre attention que le fait d'être société civile ne devrait pas nous embarquer dans un bateau où ce n'est pas nous qui devrions être les capitaines. C'est très important. Si on ne fait pas le distinguo entre les rôles de chaque acteur, nous-mêmes, nous contribuons à la vie misérable que nous menons. Que fait le mouvement Rien sans les femmes pour améliorer les conditions de vie des femmes et filles dans les territoires? L'amélioration des conditions de vie des citoyens et citoyennes, c'est un devoir régalien de l'État congolais, sauf avis contraire de l'audience. La société civile, le mouvement Rien sans les femmes, qui est une initiative de la société civile, a pour rôle conscientiser, renforcer les capacités, mener les plaidoyers. Et donc, ne nous endossez pas une responsabilité qui n'est pas la nôtre. Le mouvement Rien sans les femmes, orgueil, je ne sais pas, orgueil, quand on ne connaît pas le rôle, si on ne connaît pas son identité, on ne peut pas savoir qu'est-ce que la personne vaut. Nous, en tant que femmes, et c'est dommage que ce soit une femme qui pose la question, nous connaissons ce que nous valons. Il y a le journaliste qui a dit « Rien sans les femmes, c'est tout ». À New York, un ambassadeur auprès des Nations Unies nous dit, l'initiative de Rien sans les femmes devrait être une initiative mondiale parce que je trouve que Les femmes au niveau du monde ont le même problème.
Merci beaucoup, Madame Rachel. Vous pouvez aussi penser des réponses rapidement.
Oui, je commence par la question de Maître Dancy, qui a demandé si les femmes entrepreneurs ont accès, comment elles ont accès à l'information. Nous, au niveau de la FEC, nous organisons des matinées d'information. Chaque fois qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée, une loi, il y a des modifications, de abrogation d'une loi, nous organisons des matinées fiscales, matinées comptables pour les informer. Le problème se pose au niveau des non-membres. Ceux qui ne sont pas non-membres, nous ne nous occupons pas d'eux. Parce que la FEC, c'est un syndicat. Et l'adhésion à un syndicat est libre. Il y a d'autres syndicats qui sont là, mais nous, on informe les femmes qui sont affiliées chez nous. Uniquement nos membres nous informent. Oui, pour être membre de la FEC, c'est intéressant, le bureau est prêt, vous passez au bureau, nous donnons la fiche, vous remplissez la fiche, et sur base de ces informations, nous allons voir dans quel secteur d'activité vous orientez, parce que la FEC a des catégories, des commissions. Il y a la commission femmes entrepreneurs, il y a la commission de l'agriculture, pêche et élevage, la commission de mines, il y a tous les secteurs vraiment sont au niveau de la FEC. Et même dans l'agriculture, il y a des secteurs. Ceux qui sont dans l'agriculture proprement dite, ceux qui sont dans l'élevage, ceux qui sont dans la pêche. Et même dans l'élevage, ceux qui sont dans le gros bétail, ceux qui sont tout ça. C'est vraiment organisé. On va voir dans quel secteur vous orientez et on va vous fixer la cotisation à payer. Les derniers payent 250 $. Je pense pas que c'est trop par an. C'est toute l'année, 250 $. Ce n'est pas trop. Il y a un autre qui a demandé le nombre de femmes qui sont chefs, le nombre de femmes chefs d'entreprise dans la province. Nous, je n'ai pas le nombre exact de chefs d'entreprise. Je pense que ce nombre peut être disponible au tribunal de commerce. Parce qu'avec le droit au ADA, son article D, acte uniforme sur le droit commercial général, pour être commerçant, il faut être immatriculé au registre des commerces de crédit immobilier. Et donc, c'est à ce niveau-là où on peut trouver le nombre exact. Nous, à notre niveau, nous ne pouvons qu'avoir le nombre de femmes chefs d'entreprise affiliées à la FEC, et c'est moins de 20%. Oui, il y a aussi quelqu'un qui a demandé si les femmes handicapées ont accès à ces crédits. Vous devez d'abord comprendre que la FEC, c'est un syndicat des hommes d'affaires. La FEC ne s'occupe que des commerçants. Si vous êtes dans ces critères-là, elle va s'occuper de vous. Je pense qu'il y a d'autres organisations qui s'occupent des handicaps, je pense. Mais nous, au niveau de la FEC, pour financer, on ne tient pas compte de l'état de la personne. On tient compte du secteur d'activité. Si c'est pour les agriculteurs à ce tour, l'autre fois, c'est pour les artistes qui sont dans l'artisanat, c'est un peu ça. Mais je pense que c'est une suggestion que je peux toujours faire à la hiérarchie pour que, à la prochaine occasion, on tienne compte de personnes vivant avec handicap. C'est une suggestion. Et pour la maman qui a dit que l'artisanat, si on s'occupe de femmes qui sont dans ce secteur, oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui est beaucoup. On encourage plus les femmes à entrer dans ce secteur-là. Artisanat, transformation. Le problème toujours, c'est l'information. Il faut toujours chercher à avoir l'information. Passer régulièrement à la FEC. Même ceux qui ne sont pas membres, chaque fois qu'il y a des occasions de matinée, nous les invitons tous. Moi, je pense que la chose à faire, c'est avoir accès à l'information. C'est un peu ça.
Merci beaucoup, Rachel, pour vos explications. Pascal?
Il y a un intervenant qui nous a posé la question sur est-ce que, parce qu'au cours de notre exposé, nous avions évoqué à titre exemplatif de la réforme initiée dans les secteurs de la fonction publique. Est-ce que existe-t-il d'autres initiatives qui sont prises dans le cadre de la réforme d'autres secteurs. Ici, je voudrais dire, parce que ici, c'est justement parce que nous avions eu à évoquer la question en rapport avec la politique de l'emploi d'ici 2035. Vous avez remarqué qu'il y a d'autres réformes qui sont initiées, toujours dans le cadre de la promotion de l'emploi, mais aussi il y a d'autres réformes qui sont axées sur les maximisations des recettes en province Sud Kivu. Là où nous pouvons parler, par exemple, de la réforme initiée dans le secteur des finances. Et dans ces réformes-là, il y a eu certaines entreprises, notamment certains services qui ont été créés ici, notamment la direction des inspecteurs de finances, mais aussi la DPMR, c'est toujours dans le cadre de ces services-là, mais aussi il y avait des emplois qui avaient été créés dans ce cadre-là. Mais aussi, ici, je note que la participation, enfin, l'encadrement des femmes reste toujours faible dans ces entreprises-là. Mais aussi, il y a aussi d'autres secteurs, notamment de réformes initiées dans le cadre de la promotion de l'enseignement, parce que vraiment, c'est échelonné autour d'une période. Il y a dans le secteur de l'enseignement aussi, il y a des réformes initiées dans ce cadre-là. Mais aussi, dans notre secteur, notamment le secteur de la justice, il y a des réformes qui sont faites où, au cours de ces réformes-là, à l'issue des réunions qui ont été faites, même des suggestions.
Merci beaucoup et c'est par cette intervention que nous concluons notre presse-café de ce matin. 8 mars 2017, je remercie sincèrement vous tous d'avoir répondu présent. Nous avons suivi les brillants exposés de nos différents panélistes, Monsieur Patient Bachombe, merci beaucoup.
Je vous remercie aussi.
Isaac Bachombe, merci beaucoup.
Merci, madame.
Madame Solange Lachiga, merci.
Merci.
Madame Rachel, merci beaucoup. Et monsieur Pascal Katagondo, merci beaucoup également. Merci à tous les confrères et consoeurs journalistes d'avoir également répondu présent, à toutes les femmes et tous les hommes qui ont été là.
Voilà, nous sommes donc à la fin de l'émission spéciale Monde et la Femme, édition 2017. Merci à vous tous de l'avoir suivi.